Donc vous avez compris que dans cette dernière partie du cycle, du parcours, nous essayons de voir comment à l'intérieur du mariage peut se vivre, par la grâce du sacrement de mariage, aussi peut se vivre un service de la vie, un combat pour la vie. Vocation au mariage, une vocation à servir la vie, pas simplement la vie de ses enfants, mais plus largement, la vie dans le monde. La vie est la vie, défends-la, disait Mère Teresa. Alors comment nous pouvons mener ce combat? Nous avons déjà commencé à distinguer deux aspects. D'abord le service de la vérité, et ensuite celui que j'ai mis en lumière la dernière fois, le service de la rédemption. Étant conscient que dans notre service de la vérité, nous nous heurtons à une résistance qui est celle du péché, qui ne peut être vaincue à sa racine que par la croix. Alors, avant d'essayer de voir comment nous pouvons plus concrètement, dans une relation personnelle, aider des personnes qui sont dans des situations de souffrance, de situations de tentation par rapport à la vie, je pense à des femmes tentées d'avorter, par exemple, comment nous pouvons les aider, je voudrais revenir d'une manière plus précise et approfondie sur cette question de la vérité. Et vous aidez à prendre conscience que, comme aimait dire Jean-Paul II, la violence se nourrit du mensonge. Que derrière tout péché, il y a un mensonge. Le péché est toujours l'œuvre des ténèbres. Jadis, vous étiez ténèbres, dit saint Paul, Éphésiens 5:8, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfant de lumière. Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez-les plutôt. Le drame que vit notre temps, c'est ce combat mystérieux qui nous dépasse entre la lumière et les ténèbres, et plus précisément entre le Christ qui est la lumière et Satan qui est le prince des ténèbres. Alors ce qui est frappant, ce que Jean-Paul II a mis souvent en évidence, c'est ce qu'il appelait l'anesthésie des consciences. C'est-à-dire actuellement, il y a de moins en moins de personnes qui sont en état de porter un jugement de conscience personnelle. Il y a un état d'engourdissement, de somnolence spirituelle, pour parler comme Benoît XVI, qui fait que les gens se laissent entraîner par les idéologies dominantes et par l'air du temps, par le courant des idées. Ici, il me revient ce que dit saint Paul, Éphésiens 4:14, « Nous ne serons plus des enfants, nous ne nous laisserons plus balloter et emporter à tout vent de la doctrine, au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. » Comment nous pouvons aider Jésus dans ce combat de la lumière qui est aussi un combat pour réveiller les consciences et permettre aux personnes d'agir comme des êtres libres qui voient ce qu'il faut faire et qui ne se laissent pas balloter à tout vent de doctrine. Saint Paul dit « Ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez-les plutôt. » Il y a un aspect de dénonciation des choses. Je voudrais, à la suite de Jean-Paul II, dénoncer un certain langage mensonger en ce qui concerne l'avortement. Comme vous le savez, les mots induisent aussi la pensée. Je suis étonné de voir comment facilement nous reprenons une expression qui n'a aucun sens, celle d'avortement thérapeutique. Ça n'a aucun sens. C'est purement et simplement un langage mensonger. Un avortement n'a jamais soigné personne. C'est d'autant plus douloureux ce langage mensonger que j'ai appris à Rome que, en fait, c'est une expression qui a été très malheureusement forgée par des moralistes catholiques au milieu du XXe siècle. Pour parler de quoi ? Pour parler de ces situations où, quand on soigne dans le cas d'une personne, par exemple, atteinte d'un cancer à évolution très rapide, qui peut être soignée que par chimio, une chimio très forte, qu'il n'y a aucune chance de pouvoir sauver l'enfant avant que la mère ne meure, à ce moment-là, on est obligé de faire un traitement dont on sait qu'il aura un effet avortif. Parce que l'enfant ne supporte pas la chimio. Et à ce moment-là, il s'agit d'un effet second non voulu, il ne s'agit pas d'un avortement. Mais malheureusement, on a parlé à certains moments ici d'avortement thérapeutique. L'expression n'était pas juste. Il s'agit d'une thérapie ayant un effet avortif. Et les mots, malheureusement, restent et induisent que l'avortement peut quelquefois être légitimé pour des raisons thérapeutiques. Je ne rentre pas dans les détails, vous l'aurez dans l'écrit. De toute façon, les distinctions qu'on peut faire dans une bonne casuistique à une conscience à peu près adulte et éclairée, elles sont assez évidentes. Donc je ne rentre pas dans les détails. Je voudrais simplement, ayant été pendant 10 ans dans le monde hospitalier, insister sur le fait de l'énorme pression dont j'ai déjà parlé sur les consciences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'avortement thérapeutique ou de IMG, c'est ça ? Interruption médicale de grossesse, on ne voit pas où est le médical. Il y a l'idée que c'est le médecin qui sait. C'est lui le thérapeute. Et c'est donc, c'est avortement thérapeutique, c'est pour la thérapie. C'est une thérapie, c'est lui qui sait. Et si on dit quelque chose contre, c'est donc d'abord on s'oppose à la médecine, à la science, au médecin qui sait, et en plus on est contre la thérapie. C'est-à-dire, en fait, on fait souffrir quelqu'un. On refuse de soigner. On ne sait pas qui. C'est ni la mère ni l'enfant. Mais l'idée, dans la pensée est là dans la tête. On refuse une thérapie. C'est une thérapie. C'est le médecin qui sait. Et les gens se retrouvent comme ça saisis. Avortement thérapeutique. C'est le médecin. Les gens simples. Ils sont pris dans un étau d'angoisse, de culpabilité s'ils disaient non. Et ensuite, ils s'en veulent mortellement pour le reste de leur vie, quand ils réalisent. Je me souviens d'une mère portant un enfant de 5 mois. Le médecin avait dit, l'enfant, il est petit. Il est petit, c'est pas normal, il est petit, trop petit. Donc, avortement thérapeutique. Je prie le Seigneur de calmer ma colère intérieure que je garde même des années après, ayant vu la détresse de femme qui s'était laissée. Entraîné, je vous avais donné un cas la dernière fois, l'avant-dernière fois, extrêmement douloureux. Hein. J'essaye de calmer ma colère intérieure et de me rendre compte qu'en réalité, les médecins eux-mêmes, ils sont anesthésiés dans leur conscience. Ils sont pris eux-mêmes par un langage dominant, avortement thérapeutique. Ils ne réfléchissent pas plus en réalité que les patients auxquels ils répètent un discours mensonger. Et des fois, on a l'impression d'une logique de mort, là, comme ça, qui est à l'œuvre, insidieusement, qui détruit de l'intérieur le cœur et les consciences, et on se dit, mais qui est à l'œuvre ? Si ce n'est le prince des ténèbres.
Il faut beaucoup d'héroïsme pour de nombreux médecins pour pouvoir aller contre ça.
C'est ici que il faut se rappeler ce que dit saint Paul dans la même épître que je vous ai citée. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur, dans la vigueur de sa force, revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Ce ne sont pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Ici, il me revient une question de Benoît XVI dans son livre « Jésus de Nazareth ». Comment ne pas voir qu'existe dans le monde entier un climat spirituel vicié? Chaque époque a son climat spirituel vicié. La parole de saint Jean, le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais, est toujours vrai. Il est le prince de ce monde. Et notre époque, dans notre époque, existe un climat spirituel vicié qui menace l'humanité dans sa dignité, voire dans sa survie, et qui est essentiellement, parce qu'il y a différentes facettes du démon, actuellement un esprit de mort. Il est l'homicide. Il est à la fois le père du mensonge et l'homicide. Il est homicide par le mensonge. Avortement thérapeutique, vous devez avorter. Sinon, vous êtes responsable de la souffrance. De qui? On ne sait pas trop. Je vais ici vous citer le témoignage. Oui, je pourrais vous citer ici le témoignage qui est sur le site de l'Alliance pour les droits de la vie. D'un couple qui a fait l'avortement thérapeutique, entre guillemets. Si nous pouvions éviter de rentrer dans ce langage-là, ici j'en parle, bon. Mais si nous pouvions éviter de rentrer dans ce langage-là, ce serait très bien. C'est déjà une première manière de défendre la vie. Écoutez, mon bébé est parti il y a 2 ans. C'était un bébé désiré. Et puis à l'échographie, on a découvert des problèmes. On m'a conseillé une amniosynthèse. Choc, mon bébé était trisomique. Avec mon compagnon, on a décidé une IMG. Médecin, qui sait? Ça a été très dur. Mais c'était mieux pour mon bébé qui aurait eu une vie difficile. Ça, c'est la pression sur les consciences, hein, qui culpabilise. Et puis, pour nous, on n'était pas bien sûr de pouvoir tenir le coup. Si je vous écris aujourd'hui, c'est que je me sens très mal. À mon cours de musique, il y a un jeune trisomique depuis quelques semaines. En le voyant, j'ai pensé à mon bébé. Lui, il a une vraie joie de vivre et aussi une vraie vie. Je suis en train de réaliser que mon bébé n'aurait pas eu la vie que j'imaginais, que j'aurais été capable de l'élever. Pourquoi personne ne m'a rien dit ? Le prince des ténèbres agit par le mensonge, et ici, il est aussi celui qui nous cherche à nous contraindre au silence. C'est pas pour rien qu'il y a un démon muet dans l'évangile. Pourquoi personne ne m'a rien dit? L'Église est pleine de compassion. D'abord pour les femmes qui ont subi l'avortement. Ici, je vous renvoie à tout ce que dit Jean-Paul II dans son encyclique sur l'évangile de la vie. Je dirais simplement que dans un regard de sagesse, la vie, elle est conçue à deux, elle est faite pour être portée à deux. Quand l'homme fait défection, quand il ne soutient pas son épouse, celle-ci se retrouve nécessairement dans un état de faiblesse et de détresse. Ce n'est pas étonnant que les choses puissent lui paraître trop lourdes à porter. Et donc l'Église insiste sur la grande responsabilité de l'homme. Sur la paroisse, quelqu'un m'a confié que sa fiancée s'était retrouvée enceinte. Quand lui a appris, lui, sans réfléchir, ça lui est venu comme ça. Il est sorti alors qu'il n'en avait pas l'intention. Ça lui est sorti, mais tu n'as qu'à avorter. Et en fait, il m'a dit, mais je ne le pensais pas vraiment, mais c'est sorti comme ça. J'ai dit, ben maintenant, tu sais ce que c'est que le tentateur. Et il n'a pas pu récupérer la parole. Elle a fait son chemin et sa fiancée a avorté. Maintenant, elle est dans une détresse très grande, mais ça lui est sorti comme ça. Le poids des mots. Faire très très attention, les consciences sont fragiles et on est solidaires les uns des autres. Conseil d'un ami, tu n'as qu'à. Ah, mais c'est thérapeutique. Attention, hein. Ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Dans le langage déjà. Il va de soi que la première victime après l'enfant, c'est la femme. Je n'ai pas besoin de le souligner. J'ai demandé à Josiane de faire un petit travail par rapport à ça. Je n'ai pas eu le temps d'étudier la chose systématiquement. Moi, je peux vous dire comme prêtre que ça m'est arrivé de confesser des personnes 40 ans après. La culpabilité était toujours là. Il y a des choses qui ne peuvent pas être guéries quand on touche à des fibres aussi intimes que celles du cœur d'une femme fait pour donner la vie. C'est un vrai suicide spirituel, c'est indéniable. En Chine, où il y a, vous savez, une politique d'avortement obligatoire, hein, en fait, des mesures qui ont été prises, qui sont suicidaires pour ce pays, hein, il y a 7 fois plus de suicides de femmes que dans le monde entier. Ça fait partie de ce qu'on appelle les symptômes post-avortement. Josiane, je vous laisse dire un mot.
C'est un sujet difficile. Alors, il est vrai que... Vous m'entendez, là ? Il est vrai que dans le cas de l'avortement, souvent les femmes, en fait, ne sont pas accueillies après l'avortement parce qu'on leur reproche de l'avoir décidé, d'avoir fait un choix. Et donc, du coup... elles n'ont pas le droit de dire leur chagrin, de prendre le deuil de l'enfant. Et quelquefois, donc, et la société aide aussi à cela, il y a un déni de la souffrance. Et la femme peut tracer son chemin et à un moment donné, ça ressurgit. Hein. Ça ressurgit sous forme d'une dépression, ça ressurgit sous forme d'une somatisation. Souvent aussi, les femmes se sentent envahies par un sentiment de culpabilité diffus. Elles ont beaucoup de mal avec ça. Donc il est important qu'elles se donnent le droit de vivre le deuil qu'elles ont à vivre, qu'elles se donnent le droit d'être accompagnées, de pouvoir dire leur souffrance, de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé, de mettre des mots dessus. Parce qu'il est vrai que la vocation de la femme, c'est de donner la vie, et tout le corps porte à ça. Et donc une grossesse interrompue, c'est toujours un énorme traumatisme, aussi au niveau physique, au niveau psychique et bien sûr au niveau spirituel. Voilà. Donc ce qui est vraiment important, c'est cet espace d'accueil pour ces femmes qui ont traversé des avortements ou des fausses couches ou qui ont perdu un enfant lors d'une grossesse. Et il est important d'en prendre soin, il est important d'avoir elles ont droit à la consolation, elles ont droit au respect, parce que très souvent aussi elles se dévalorisent après ça. Elles manquent de confiance en elles, elles se remettent en question dans leur vie de femme, dans leur vie de mère. Et c'est aussi quelquefois, un avortement peut aussi avoir des conséquences, bien sûr, au niveau de la famille, sur les autres enfants, avec le conjoint. Donc, prenons soin de ces femmes.
L'Église en prend soin actuellement de plus en plus. Vous savez, il y a des lieux d'accueil et d'accompagnement, notamment à Paris, c'est Agapa. Il y a aussi Mère de Miséricorde.
Oui.
Florence, tu voulais dire un petit mot? Ou on en parle par la suite? Un petit mot, c'est bon.
Mère de Miséricorde, c'est une association où des femmes portent dans la prière et à travers le jeûne des personnes qui sont tentées d'avorter ou qui ont avorté. Et des hommes, bien sûr, pour les accompagner voilà, par leur prière et leur offrande. Donc c'est vraiment une belle association, vous n'hésitez pas à les contacter si vous connaissez quelqu'un qui ne sait pas si elle doit garder son bébé ou avorter. Et il y a vraiment une chaîne de prières importante et de jeûne par cette association et qui porte beaucoup de fruits.
Il y a des démons qu'on ne chasse que par la prière et le jeûne. L'expérience montre qu'il s'agit d'un... Pour la femme qui a avorté, le chemin de la guérison passe par ce qu'on appelle traditionnellement le chemin pénitentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guérison des conséquences du péché sans reconnaissance du péché. Donc là, il y a tout un travail... qui se fait. Moi-même, j'ai vu ce travail se faire dans le cadre d'Agapa à travers même des jeux de rôle, encore que personnellement, je ne suis pas très enthousiaste par rapport à cette technique-là, mais il s'agissait de faire prendre conscience en refaisant certaines scènes à la femme de ce qui s'était passé, de ce qu'elle avait fait, de ce qui avait été dit. Bien. Réveiller la conscience. Bon. Mais ça passe aussi par l'accueil intérieur de l'enfant dans l'espérance qu'il vit. Dans la prise de conscience qu'il s'agit d'une personne maintenant qui est que l'on espère être, que l'Église nous invite à espérer être auprès du Seigneur. Écoutez Jean-Paul II. Parlant aux femmes qui ont avorté, l'Église sait combien de conditionnements ont pu peser sur votre décision et elle ne doute pas que dans bien des cas, cette décision a été douloureuse et même dramatique. Il est probable que la blessure de votre âme n'est pas encore refermée. En réalité, ce qui s'est produit a été et demeure profondément injuste. Mais ne vous laissez pas aller au découragement et ne renoncez pas à l'espérance. Sachez plutôt comprendre ce qui s'est passé et interprétez-le en vérité. Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez-vous avec humilité et avec confiance au repentir. Le Père de toute miséricorde vous attend pour vous offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de la réconciliation. C'est à ce même Père et à sa miséricorde qu'avec espérance vous pouvez confier votre enfant. Habituellement, on conseille aux personnes même de faire célébrer l'Eucharistie. Pour l'enfant. Lui donner un prénom pour qu'elle fasse ce qui dépend encore d'elle comme mère, hein, et qu'elle puisse accueillir vraiment plus profondément l'enfant comme une personne qui maintenant va auprès du Seigneur intercéder pour elle. Ici, je tiens à préciser les fruits d'un travail qu'avait demandé le cardinal Ratzinger, et Benoît XVI n'a pas été contre, c'est-à-dire celle d'un travail de la Commission théologique internationale sur la question du sort des enfants morts sans le baptême. C'est un document qui a été publié 19 avril 2007, on le mettra sur le site, par rapport à ce qui a été, il faut le dire, pendant des siècles, la doctrine catholique commune, mais qui la théorie des limbes, mais qui dit doctrine catholique commune ne dit pas doctrine de la foi. C'est-à-dire qu'en réalité, jamais le magistère n'a entériné cette position théologique qui a été pendant des siècles la position dominante. Donc vous savez que dans la théorie des limbes, il y avait cette idée qu'il pouvait y avoir une sorte de bonheur naturel donné à des personnes qui, n'ayant pas la grâce du baptême, mais n'ayant pas non plus commis de péché personnel, se retrouveraient dans un lieu à part, si je puis dire, entre l'enfer et le ciel. Bien. Écoutez le document. Alors même qu'elle sait que la voie normale pour obtenir le salut dans le Christ est le baptême, l'Église espère qu'il puisse y avoir d'autres voies pour obtenir la même fin. Puisque par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, puisque le Christ est mort pour tous, et que tous sont en fait appelés à une unique et même destinée qui est divine, l'Église croit que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Alors c'est... parce que peut-être vous ne voyez pas le problème au niveau théologique, mais le problème, il est que nous ne sommes pas conçus en état de grâce, nous sommes conçus en état de péché originel. Et on ne peut rentrer au ciel que par la grâce sanctifiante. Donc, il faut se dire, mais comment l'enfant peut-il bénéficier du salut alors qu'il ne peut pas poser l'acte de foi, ni recevoir la grâce du baptême par ses parents? C'est une question réelle, ce n'est pas une question, de cerveau en mal de questions oiseuses, non, c'est une question réelle. Donc l'Église répond, le Christ par son incarnation s'est uni à tout homme, autrement dit, sa grâce rejoint tout homme, reste que Dieu ne sauve pas sans nous, et qu'il attend donc cette ouverture à sa grâce qui s'appelle la foi. Et déjà, cette vision que le Christ s'est uni d'une certaine manière à tout homme, et que par l'incarnation, de toute façon, l'Esprit Saint est au travail dans le cœur de tout homme. Et comment va se faire l'ouverture? L'Église maintenant répond, elle se fait par la solidarité qui existe entre les hommes et que Dieu a voulu aussi, qui fait que la foi de l'Église et sa prière supplée à l'incapacité dans laquelle est l'enfant de poser lui-même l'acte de foi. Il y a une double solidarité, solidarité avec le Christ qui s'unit à tout homme et solidarité avec l'Église qui supplée à l'absence d'un acte de foi personnel. Ça nous rappelle une vérité profonde, c'est que nous ne nous sauvons pas seuls. Dans ce document, l'Église a voulu souligner la solidarité aussi avec les saints innocents. Et avec le Christ, premier martyr de la violence humaine. Mais de penser qu'au moment où l'enfant avorté meurt de la violence des hommes, et encore plus de la perversion du démon qui influence les hommes, eh bien, il est uni au Christ à sa passion dans une sorte de baptême de sang. Et que de toute façon, Jésus rejoint toute personne dans la souffrance et dans la mort, que ce soit un enfant avorté ou un enfant qui meurt de fausse couche. Il y a l'espérance qu'au moment de la mort, c'est peut-être le moment où la grâce sanctifiante est donnée dans cette communion à la souffrance de Jésus. Et portée par la foi et l'espérance de l'Église. On pourrait tenir le même langage par rapport à l'euthanasie. La violence se nourrit du mensonge. Vous savez que dans le monde médical, j'ai eu le temps de le voir, on ne prononce jamais le mot de tuer. On ne tue personne. Et donc, en fait, dans l'euthanasie, on aide à mourir dans la dignité. C'est le grand mot maintenant. C'est une aide. On ne va pas jusqu'à dire encore que c'est un acte thérapeutique, mais c'est une aide. Alors moi j'ai vu cette aide, entre guillemets, de différentes manières. Je vous cite simplement deux cas pour réveiller vos consciences. Premier cas, on m'appelle, c'est les soins palliatifs de l'hôpital qui m'appellent. Ils disent on voudrait rencontrer le personnel, les deux médecins d'un service de réanimation, parce que dans la nuit, une infirmière nous a alertés, elle a elle-même remis l'oxygène à un malade, on avait coupé l'oxygène, il est en train d'étouffer. Or ce malade, je l'avais vu plusieurs fois, j'étais en dialogue avec lui, sa famille aussi, il y avait tout un chemin de réconciliation qui se faisait. La famille a prévient les soins palliatifs. Il me demande de témoigner que j'ai parlé avec le patient qui faisait un chemin. Alors ici, moi j'étais tout jeune aumônier, rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type, deux médecins sont là, que je ne connaissais pas, du service de réanimation, le responsable des soins palliatifs. Il commence par leur expliquer, écoutez, on sait que vous avez peu de lits et qu'il y a des questions de gestion et d'économie. Bon. Silence. On a su par une infirmière que l'oxygène avait été débranché. Silence. Voilà, l'aumônier a fait un chemin avec lui. Silence. Ça a duré une demi-heure, ils n'ont pas dit un seul mot. Ils n'ont pas dit un seul mot. Ils n'avaient rien à dire. Parce que le mal est sans raison. Il est sans logos. Le mal, c'est absurde. Qu'est-ce qui les a poussés à enlever l'oxygène? À mon avis, ils ne le savaient même pas eux-mêmes. Et là, on voit l'emprise du mal. Deuxième situation. J'apprends qu'à l'Hôtel Dieu, on va faire un grand débat dans l'amphi qui est dans l'ancienne chapelle de l'hôpital. Un grand débat sur un sujet qui va montrer la diversité des sensibilités. Attendez, accrochez-vous. C'est un cas parce qu'il y a dû y avoir une plainte, je ne sais pas, mais enfin, c'est remonté qu'un médecin, un chef de service très connu, grand humaniste, il y a un petit problème apparemment, mais on va pouvoir en débattre parce que justement on va voir ceux qui sont pour ou contre. Alors, la situation simple, une femme rentre dans son hôpital, elle vient pour accoucher. Elle ne souffre pas du tout, elle est bien, ça. Et à l'occasion de l'accouchement, ils font une radio et ils voient qu'il y a peut-être quelque chose au niveau du foie. Et le médecin, donc elle accouche, le médecin ayant repéré qu'il pouvait y avoir quelque chose, demande à opérer pour voir de plus près. Et donc il s'aperçoit qu'en fait, cancer du foie. Vous ne croirez pas. Il l'a fait piquer. Elle est sortie morte de la salle d'opération. Vous imaginez,
la mère
est sortie morte de la salle d'opération. Elle a été tuée. C'est ça l'aide à mourir dans la dignité. Alors il y avait un psychologue, un truc, on débat de la question. Moi, j'étais tellement choqué, j'ai pas pu prononcer un mot, de toute façon, on ne me demandait rien, à vrai dire, mais atterré qu'on puisse discuter de ça. Et la psychologue a dit, mais écoutez, il a mal vécu son sentiment d'impuissance. Ouais, mais on en est là. Ça, c'est il y a 15 ans. J'ai un ami hollandais, c'est pas son père âgé, mis en maison de retraite, en clinique. Il m'a annoncé, c'était il y a quelques années, que son père allait mourir tel jour au mois d'août. Parce qu'il y a une programmation. Je sais qu'actuellement, il y a certaines familles qui tentent de résister, donc ils envoient leurs parents, leurs grands-parents, dans des maisons de retraite en Allemagne. Le pays où il y avait les fours crématoires maintenant devient un pays de préservation des personnes âgées. Alors, c'est ça, l'aide à mourir dans la dignité. Soyons conscients, appelons-les. Un chat, un chat, ils n'ont pas peur de dénoncer le mal jusqu'au bout. Moi, je ne comprends pas que l'Église ne se saisisse pas de cas comme ça. Je parle du cas, par exemple, de la femme qui est sortie morte de la salle d'opération, jeune mère de famille. Je ne comprends pas pourquoi l'Église ne se saisit pas de cas comme ça pour faire des scandales. Alors que d'autres savent si bien exploiter des situations limites où on apitoie les gens, et nous, on ne sait pas dénoncer le mal. Donc, je n'insiste pas plus. Je reviens sur le fait que, à l'origine de tout ça, il y a une perte de la confiance, pour parler comme Jean-Paul II, de la valeur de la vie. Et aussi, Benoît XVI, lui, a mis en évidence qu'il y avait une perte d'espérance face à la souffrance qui devient le mal absolu. Écoutez comment il a parlé dans sa sagesse. Une société, c'est dans Spe Salvi 38, une société qui ne réussit pas à accepter les souffrants, qui n'est pas capable de contribuer par la compassion à faire que la souffrance soit partagée et portée aussi intérieurement, est une société cruelle et inhumaine. Cependant, la société ne peut accepter les souffrants et les soutenir dans leurs souffrances si chacun n'est pas capable lui-même de cela, et d'autre part, chacun ne peut accepter la souffrance de l'autre si lui-même personnellement ne réussit pas à trouver un sens à la souffrance. Un chemin de purification et de maturation, un chemin d'espérance. Moi, j'ai vu un infirmier arrêter à l'EAP, à l'HPHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la moyenne de durée d'une infirmière est de 4 ans. J'ai vu un infirmier arrêter de son travail d'infirmier en disant « je ne suis pas malade ». La capacité qu'on a de porter la personne qui souffre, et bien, ça dépend de la capacité qu'on a à donner sens nous-mêmes à la souffrance. Si moi je n'ai pas l'espérance par rapport à la souffrance, il y a un moment où ça craque. C'est pas pour rien que pendant des siècles, ceux qui s'occupaient des malades étaient des contemplatifs, les religieuses. Donc on va... le drame du monde hospitalier actuellement... C'est le drame d'une société qui en réalité n'a plus la force de porter. Mais le problème, c'est que, comme à aucune autre époque, on est dans cette logique où on appelle bien le mal et mal le bien. Et c'est là où il y a vraiment la griffe du malin. Qu'on dise on n'a pas la force de porter, on n'a pas la force d'accompagner jusqu'au bout. On peut poser les vraies questions et les vrais problèmes. Mais plutôt que de reconnaître sa faiblesse et son impuissance, on est dans une mode d'auto-justification collective qui est désastreux pour le salut des âmes. Parce qu'il n'y a pas de place pour la conversion et le repentir. L'homme moderne, il est en recherche de vie et il souffre, pour reprendre une expression de Benoît XVI, des limites du monde. Il cherche la vraie vie, il y a une recherche confuse d'une plénitude de vie, mais il passe à côté du mystère de la croix, qui est la loi fondamentale de notre vie, c'est-à-dire qu'on ne peut trouver la vie qu'en la perdant. Que la vie pour soi ne sera jamais la vraie vie. Et en fait, dans cette logique de destructrice de l'avortement et de l'euthanasie, il y a aussi un refus de la, je dirais, de donner sa vie pour permettre une autre vie, pour accompagner une autre vie, parce qu'il y a une peur de perdre sa propre vie. Et en réalité, on bute sur le mystère de la croix. Être mère, c'est sacrifier sa vie pour permettre une autre vie. Mais dans ce sacrifice de sa vie pour permettre une autre vie, se trouve le chemin de la vraie vie. Mais si on n'a pas foi au Christ mort et ressuscité, pas rentrer dans cette logique qui est la vraie logique de la vie, parce que c'est inscrit en nous. C'est précisément en voulant avoir la vie que l'on dit non à l'enfant, car il ôte quelque chose à ma vie. On dit non à l'avenir pour avoir tout le présent. On dit non tant à la vie qui naît qu'à la vie qui souffre, qui va vers la mort. Cette apparente culture de la vie devient l'anticulture de la mort. Et Benoît XVI continue en disant « L'option la plus profonde pour le Christ crucifié » Et en réalité l'option la plus totale pour la vie. Ça, c'est notre sagesse à nous. Il faut qu'on en soit fier. C'est la sagesse de la croix. Mais il faut qu'on l'assimile jusqu'au bout, parce que c'est le contrepoison à notre époque. Alors, d'une manière particulière, l'enfant handicapé apparaît comme celui qui va empêcher de vivre. Alors qu'en réalité, l'expérience montre qu'il est celui qui va nous ouvrir à une nouvelle profondeur de vie. Accueillir un enfant handicapé mentalement, c'est accueillir un être qui nous rappelle sans cesse le primat de la communion, le primat du cœur, parce que c'est un être qui ne vit que d'amour, qui ne se projette pas dans un idéal de soi, qui ne se recherche pas lui-même dans des œuvres, mais qui vit ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'homme, la soif de communion. En réalité, accueillir l'enfant handicapé, c'est faire un pas concret vers l'accueil, dans l'accueil du royaume de Dieu. C'est accueillir le Christ humble et pauvre et le laisser nous conduire dans cette vie nouvelle qu'il est venu apporter au monde, qui est une vie toute cachée en Dieu, dans lequel prime le cœur, l'invisible. Ici, j'ai le livre de Sophie Lutz, qui a eu un enfant handicapé, polyhandicapé, qui est la fille d'Anne Claire, dont vous avez plus, et de Philippe. Donc vous avez ici plus que des photos, vous les avez en vrai, là. Et ils peuvent témoigner, mais je vous dis ce que m'a dit Sophie, j'ai mis dans le texte, c'est ce que l'enfant nous donne dans l'invisible ne se révèle que peu à peu. On met du temps à comprendre que l'on reçoit aussi, que ce n'est pas une mission impossible, comme notre monde pousse à le faire croire. Elle m'a dit qu'elle avait mis du temps à comprendre que Philippine, que vous voyez ici, était capable de lui donner de l'amour. On m'a dit que récemment, une personne qui a travaillé chez elle, essentiellement du babysitting, lui a écrit pour lui dire combien Philippine l'avait convertie et changée. Mais parce que ces enfants polyhandicapés, il n'y a aucun obstacle à la présence du Christ qui les fait participer à sa vie, qui leur donne de grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Et il y a un rayonnement qui se fait, il y a une croissance de cette foi et de cette espérance et de cette charité par la liberté ultime de la personne même qu'elle possède, qui est une liberté de consentement et d'ouverture à Dieu. Tu veux dire un mot ?
Ce week-end, j'ai vécu quelque chose de bouleversant parce que nous faisions un week-end avec Louis et les Saint-Vincent, et un week-end de couple. Disons que j'ai voulu témoigner de mon combat par rapport à l'orgueil, parce que moi je me suis rendu compte très fortement récemment à quel point c'est difficile de ne pas se regarder. Et il se trouve que notre fille, alors Philippine, elle ne se regarde pas, pas de problème. Là, de ce côté-là, il n'y a même pas à discuter. Mais on a notre dixième qui a un syndrome autistique, et je me bats pour l'inverse. Je me bats depuis un an pour qu'elle se regarde dans la glace et pour qu'elle sache se coiffer, s'habiller. Et elle ne veut pas se regarder dans la glace. Elle ne se regarde jamais. Et elle ne se regarde pas non plus au niveau de son comportement. Elle a une pureté qui est étonnante. Et ce week-end, donc, j'avais à témoigner de mon combat. Et quand je suis rentrée, on a eu la prière des frères. Et dans la prière des frères, j'ai été poussée à dire merci pour la croix. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas préparée. Et j'ai dit merci pour la croix avant que les frères prient pour moi. Et intérieurement, je pensais à tout le chemin que Thérèse nous fait faire et qui nous fait beaucoup souffrir, Philippe et moi. Et en rentrant à la maison, c'était la fête des mères. Et quand je suis rentrée à la maison, Thérèse se précipite et me donne un beau cadeau bien enveloppé qu'elle avait été acheté avec son argent de poche. Et j'ouvre le cadeau, c'était une belle croix. J'ai oublié de la porter, je voulais que tu me la bénisses, Louis. Mais hier soir, en rentrant du week-end, elle m'a offert une belle croix. Ça m'a mais complètement bouleversée. Et on s'est serré dans les bras l'une de l'autre et on a pleuré un bon moment. Et qu'elle m'offre la croix ce jour-là. Et je me dis, mais c'est pas la première fois que quand j'ai des combats spirituels, Thérèse m'apporte la solution. Très très souvent, depuis elle a 15 ans et ça fait longtemps qu'on expérimente. Mais hier soir, j'ai été complètement retournée. Je me suis dit, quand même, j'ai remercié pour la croix le soir, elle m'en offre une. Et je ne m'attendais pas à ça comme cadeau de la fête de mère. Mais je peux vous dire que vraiment, Philippine, notre petite fille, parce qu'avec Philippine, il n'y a pas le choix. Soit on est au niveau du cœur profond, soit il n'y a aucune relation. Donc, on n'a pas le choix. On a été obligé de se dire l'enseignement de Louis, est-ce que c'est vrai? Et du coup, avec Thérèse, c'est pareil. Thérèse, elle sait parler. Mais c'est impressionnant. Je me suis sentie tout le week-end en communion avec elle. Je rentre et elle m'offre la croix. Vous voyez, pour moi, c'est clair qu'on communique au niveau du cœur profond, même à distance. C'est vraiment très chouette. C'est un cadeau, hein. Un vrai.
Sur un autre registre, et pour illustrer la capacité d'ouverture à Dieu d'une manière qui nous a étonnés, quand Philippine a grandi, nos enfants se sont posés la question de savoir si elle était baptisée, évidemment, mais elle est une vie chrétienne, donc est-ce qu'elle est amenée à communier? Donc elle a fait sa première communion, elle a communié. Et quand l'évêque du diocèse a su ça, il a dit « il faut que Philippine soit confirmée ». Et ça a été l'objet d'un grand débat familial, disant « mais attendez, la confirmation, c'est pour envoyer, témoigner, etc. Quelle est sa capacité, etc. » Et donc, on voit bien qu'avec le temps, l'Esprit Saint agit au travers de Philippine de façon, enfin, en tout cas pour moi, de façon tout à fait étonnante et au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer.
Et quand même, par rapport à la croix, vraiment, c'est vraiment un cadeau, la croix. C'est un truc que j'aurais jamais pu dire autrefois. Parce que jusqu'à 1992, pour moi, c'était barjot de dire ça. Maintenant, vraiment, la croix, c'est un cadeau. On peut pas... La sagesse de la croix est vraiment... hier, le week-end, Louis a parlé de la croix et il y a quelqu'un qui m'a dit... Mais le bonheur. Et je dis, mais le bonheur, mais attends, c'est pas le bonheur qui est intéressant, c'est la joie. Et la croix, c'est accompagné de la joie. Je vous assure que hier soir, j'ai pleuré de joie de me dire, mais c'est fou, elle a tout compris, quoi.
Alors, nous commençons, nous pouvons maintenant rentrer dans le sujet de ce soir. la manière de vivre l'aide, l'accompagnement des personnes qui sont en souffrance, en difficulté. Je vous invite à relire ce qu'a dit Benoît XVI au Portugal. La foi pourra très difficilement toucher les cœurs à travers de simples discours ou des rappels moraux. Et encore moins par des allusions générales aux valeurs chrétiennes. Ça, c'est sûr que le discours général sur les valeurs chrétiennes. Mais, il dit donc, des simples discours, des rappels moraux. Le rappel courageux et intégral des principes est essentiel et indispensable. C'est pas Ratzinger qui va dire le contraire. Toutefois, la simple énonciation du message, autrement dit, tout ce que j'ai dit jusqu'ici sur la dénonciation du mal, sur le fait de refuser de rentrer dans un langage mensonger, la simple énonciation du message ne va pas jusqu'au fond du cœur de la personne, ne touche pas sa liberté, ne transforme pas sa vie. On ne va pas sauver le monde en multipliant les conférences de débats éthiques, philosophiques. Non. Le combat est trop profond pour que ça se situe à ce niveau-là d'abord. Ce qui séduit, c'est avant tout la rencontre avec des personnes croyantes qui, par leur foi, attirent vers la grâce du Christ en lui rendant témoignage. Donc c'est ici que rien ne remplace le contact personnel. Internet, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais cette aide concrète d'une personne vivante à une autre personne vivante. Et vous comprenez que pour que les gens puissent sortir de la désespérance qui pousse à un esprit de mort, elles ont besoin de gens qui témoignent de la grâce du Christ, c'est-à-dire qui témoignent de la réalité du royaume de Dieu, qui est au-dedans de nous et qui transforme de l'intérieur notre vie, notre humanité tout entière. C'est pour ça que Benoît XVI dit aussi qu'il faut renouveler notre connaissance de Dieu, notre amitié avec Jésus, pour être ainsi capable de guider les autres de façon convaincante à l'option pour la vie, qui est avant tout une option pour Dieu. Et je dirais ici que les gens ont besoin de voir des personnes qui vivent vraiment de Dieu, je dirais que Dieu fait vraiment vivre, quoi. Témoignage que Dieu nourrit vraiment notre cœur, notre besoin d'aimer et d'être aimé. Témoignage qu'en étant dans une vie surnaturelle, on est en même temps de plus en plus naturel. Bien le témoignage que nous donnent les saints, il n'y a rien de plus simple, de plus humain qu'un saint. Soyons bien convaincus que ce que nous sommes, ce que nous vivons intérieurement, c'est le premier cadeau que nous faisons aux autres. Parce que les choses se voient beaucoup plus que nous pouvons l'imaginer. Elles transparaissent à travers tout ce que nous pouvons dire ou faire. Aujourd'hui, nous fêtons le fait de la visitation. Marie portait au plus intime de son cœur d'abord et de son corps aussi la présence de Jésus. Et si vous rappelez l'évangile de la visitation, nous voyons comment à travers une simple salutation, cette présence a passé. Elle a sanctifié l'enfant que portait Élisabeth ainsi qu'Élisabeth elle-même. Je me souviens ici du témoignage d'une jeune prostituée de 14 ans, droguée prostituée, qui s'est retrouvée accueillie et qui a changé de vie, accueillie par les sœurs de Mère Teresa. Elle a demandé comment elle avait, pourquoi ce changement radical, alors qu'elle avait des assistantes sociales qui étaient sur son dos, si je puis dire, depuis pas mal de temps, et que rien n'y faisait, mais parce que dans la rue, elle a croisé une Mère Teresa elle-même, sans le savoir. Et Mère Teresa l'a regardé simplement et lui a dit « Suis-moi ». Ce qui séduit, c'est avant tout la rencontre avec des personnes croyantes qui, par leur foi, attirent vers la grâce du Christ. Un simple regard peut suffire. Réveiller l'espérance. y a, à partir du moment où nous-mêmes nous sommes dans l'espérance, que nous vivons tendus vers cette réalité cachée aux yeux du monde, mais qui est la réalité essentielle, qui est le royaume de Dieu, il y a une force et un élan qui passent, qui permet aux personnes de se relever et de pressentir qu'il y a un sens à la vie, même si elles ne savent pas encore mettre un mot sur ce qu'elles entrevoient. Les personnes ne sont pas encore capables de croire et d'espérer elles-mêmes. Mais repensez à ce que j'ai dit par rapport aux enfants pas encore capables de poser l'acte de foi, solidarité entre les âmes. Et pensez à l'évangile du paralytique, pas capable de marcher lui-même vers Jésus, mais porté par quatre hommes. Et soyons bien convaincus que par notre foi et notre espérance, nous portons les autres, nous les portons réellement, nous les portons au Christ. Donc nous laissons Jésus passer. Je me souviens qu'une fois j'accompagnais un petit peu une personne qui avait rencontré un groupe de prière charismatique et évangélisé à l'avenue des Champs-Élysées. Et elle allait se suicider quand elle a rencontré le groupe. C'est une personne qui était du milieu des bidonvilles, qui avait vraiment rien pour elle physiquement, mais rien pour elle physiquement aux yeux du monde. Et toute blessée psychologiquement, mais alors... Et donc cette personne, je l'ai rencontrée, une fois elle m'a dit qu'elle avait été arrêtée par la police, je ne sais pas pourquoi, et elle a passé tout un temps dans un commissariat où on s'est moqué d'elle. Et elle me racontait ça, et moi je l'entendais parler, je voyais Jésus uni à elle, souffrant en elle, étant, comme disait Jean-Paul II, on n'aime pas les pauvres parce qu'on n'aime pas Jésus. Et quelques jours après, elle m'a dit, tu te souviens, dans le métro, tu m'as regardé. Et puis, en fait, le soir, moi, je me suis regardé dans la glace, je me suis trouvé belle. Ce que l'on voit, mais je ne lui ai rien dit, évidemment, hein, mais ce que l'on voit, ce que l'on perçoit dans la foi, passe de notre cœur au cœur de l'autre. On porte la lumière. Il y a beaucoup de choses comme ça qui passent par le regard, simplement. Un regard éclairé, illuminé par la foi et l'espérance. Et un regard aussi contemplatif, à certains moments, c'est donné de vraiment de voir Jésus en l'autre. C'est pas rien de voir Jésus en l'autre. Jésus est descendu aux enfers, dit Benoît XVI. Ça signifie que Dieu s'étant fait homme est arrivé au point d'entrer dans la solitude extrême et absolue de l'homme, là où n'arrive aucun rayon d'amour, où règne l'abandon total sans aucune parole de réconfort, les enfers. Jésus-Christ demeurant dans la mort a franchi la porte de cette ultime solitude pour nous guider également à la franchir avec lui. Nous avons tous parfois ressenti une terrible sensation d'abandon. Et ce qui nous fait le plus peur dans la mort est précisément cela. Comme des enfants, nous avons peur de rester seuls dans l'obscurité. Seule la présence d'une personne qui nous aime peut nous rassurer. L'impensable a eu lieu. L'amour a pénétré dans les enfers. Dans l'obscurité extrême de la solitude humaine la plus absolue également, nous pouvons écouter une voix qui nous appelle et trouver une main qui nous prend et nous conduit au-dehors. La personne n'est pas capable de voir Jésus qui descend dans son enfer intérieur, dans sa culpabilité de femme qui a avorté, dans sa détresse d'âme. Mais nous croyons que Jésus est descendu dans son enfer intérieur. Et nous laissons Jésus passer, lui tendre la main, la rejoindre, lui parler. C'est ça qui se passe dans la foi et l'espérance. Alors je dis que souvent, vous voyez, les gens nous parlent, nous confient leur détresse et on est là un peu inquiet à chercher une solution concrète. Quoi. Qu'est-ce qu'on va lui conseiller ? tu devrais bien voir un psy, j'en connais un qui est pas mal, tu te meurs. On est là, on est dans le faire. On pense que aimer, c'est d'abord faire pour l'autre. Et faire des choses concrètes, ça nous donne l'impression aussi d'être utile. Hein. Mais en réalité, le problème de fond n'est pas là. Il faut relever la personne. La relever dans l'espérance. Et communiquer quelque chose d'une lumière qui va lui permettre d'aller de l'avant et de retrouver sens. On peut très bien redonner l'espérance à une personne sans avoir de solution concrète à lui proposer, parce qu'on ne voit pas pour l'instant. Hein, rappelez-vous la rencontre de Pierre avec le boiteux de la Belle Porte, qui attend que Pierre lui donne de l'argent, et dit « de l'argent j'en ai pas, mais au nom de Jésus-Christ, ce que l'on a, c'est une foi, une espérance qui porte, et qui laisse passer Jésus lui-même. » Donc ce que j'ai dans mon cœur, je te le donne. Si les personnes ont retrouvé un chemin dans leur cœur de foi et d'espérance grâce à nous, qu'elles se mettent à se relever, il faut avoir confiance que progressivement le Seigneur de lumière, de par cette lumière intérieure qui s'est allumée en elles, leur montrera la solution. Le Seigneur peut nous inspirer, par la suite peut servir de d'autres intermédiaires. Mais notre première mission en tant que disciple de Jésus, c'est de porter dans notre cœur les personnes, dans la foi, l'espérance et la charité. Quand on a affaire à des personnes qui sont qui ont commis, comme une personne qui a avorté, qui sont enfermées dans une culpabilité refoulée et qui ne sont pas prêtes encore à reconnaître leur faute parce que c'est trop dur pour elles. On aimerait bien arriver à les convaincre intellectuellement que de fait c'est un péché et qu'elles n'ont plus qu'une seule chose à faire, c'est aller se confesser. Mais ça ne marche pas comme ça. Et on sait très bien qu'on peut, par nos paroles un tant soit peu moralisatrices, appuyer sur la pédale culpabilité et obtenir l'effet exactement contraire. Renforcement des anticorps. Quelle est la réponse? Toujours la même solidarité entre les âmes. On peut faire pénitence pour un autre. On peut avancer soi-même. Sur un chemin d'humilité, de reconnaissance de nos propres fautes. L'humilité est le secret de l'évangélisation des gens, Jean-Paul II. Puis de fait, on peut recourir aux jeunes comme mère de miséricorde et on peut aider la personne progressivement à s'ouvrir à la lumière de telle manière que, reconnaissant sa faute devant la miséricorde, elle puisse être sauvée par celui qui est venu appeler non pas les justes mais les pécheurs. L'Église a un besoin profond de réapprendre la pénitence, d'accepter la purification. Nous devons réapprendre cet essentiel, la conversion, la prière, la pénitence et les vertus théologales. C'est ce que Jean-Paul II a dit dans son voyage au Portugal. Le plus lourd, c'est de porter la résistance à la lumière chez l'autre, son refus obstiné de reconnaître son péché. Et souvent, on ne comprend pas que l'autre ne comprenne pas. On ne comprend pas qu'il ne puisse pas reconnaître, qu'il ne puisse pas voir, et donc ça nous touche, ça nous fait souffrir, mais c'est tellement évident pour nous. Et pourquoi il pas. Et alors, à ce moment-là, ben, on ne porte plus. On n'a plus la patience pour porter. Il faut se dire que tant qu'on éprouve de la colère, de l'énervement vis-à-vis de l'autre, on n'est pas capable de lui parler. On ne peut corriger que ce qu'on a la force de porter. Donc, laisse ta colère, calme ta fièvre, ne t'indigne pas, il n'en viendrait que du mal. Inversement, des fois, on ne se met pas en colère, mais on contemple dans l'autre. Dans l'autre chose, c'est-à-dire on veut être compatissant en étant d'une indulgence sans borne, et en édulcorant un peu la loi morale, l'air de dire c'est pas si grave, quoi. Tu sais, c'est pas. L'Église ne condamne pas, mais il y avait des circonstances atténuantes. Et tout un langage qui fait qu'en réalité, on empêche la personne d'aller jusqu'au bout d'un acte, d'un mouvement de repentir, hein, par une sorte de compassion trop humaine. Ici, je me permets de citer Benoît XVI, parlant aux prêtres pédophiles. Il leur dit pas, c'est pas si grave que ça. Hein. Écoutez bien, si vous ne l'avez pas lu. Je vous exhorte à examiner votre conscience, à assumer la responsabilité des péchés que vous avez commis et à exprimer avec humilité votre regret. Le repentir sincère ouvre la porte au pardon de Dieu et à la grâce du véritable rachat. En offrant des prières et des pénitences pour ceux que vous avez offensés, vous devez chercher à faire personnellement amende pour vos actions. En offrant des prières et des pénitences. Mais ensuite, il a appelé tout le peuple irlandais à offrir des prières et des pénitences. Solidarité dans la pénitence. Le sacrifice rédempteur du Christ a le pouvoir de pardonner même le péché le plus grave et de tirer le bien également du plus terrible des maux. Dans le même temps, la justice de Dieu exige que nous rendions compte de nos actions sans rien cacher. Reconnaissez ouvertement vos fautes, soumettez-vous aux exigences de la justice, mais ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Autrement dit, c'est grave, mais il ne faut pas désespérer. C'est pas désespérer. La miséricorde de Dieu est plus grande que ça. Ça, on peut pas toujours le dire comme ça, ici s'adresse à des prêtres, mais dans notre cœur, de ne pas minimiser la gravité, c'est pas ça qui aide. Mais de garder ce sens de la nécessité de la pénitence. En la prenant d'abord pour nous-mêmes, cette pénitence. Je reprendrai peut-être sur la question de l'accompagnement à proprement parler des malades la prochaine fois, mais il faut accepter les limites du temps, de la fatigue. Et si vous voulez, nous allons terminer en disant le Notre Père pour toutes les personnes que nous connaissons qui ont subi l'avortement, par exemple, de nos familles, de nos proches. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.